deux mois et demi, un grain de sable venait gripper les rouages bien huilés de la mondialisation. Un gigantesque porte-conteneur s'échouait en travers du canal de Suez et paralysait le trafic mondial de marchandises. Un événement qui, dans le sillage de la pandémie, a mis en lumière les défaillances de la globalisation. Alors faut-il aujourd'hui transformer le libre-échange ? La mondialisation de demain sera-t-elle plus écologique et plus solidaire ? Et quelle place pour l'Europe dans la nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis ? Voilà quelques-unes des questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Échange, ce vieux rêve qui bouge, c'est le titre de notre émission aujourd'hui et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Jean, économiste, directeur du CEPI, co-auteur de cette bande dessinée, La folle histoire de la mondialisation, publiée aux éditions Les Arènes. Également avec nous en studio, Isabelle Méjean, économiste, professeure à l'école polytechnique. Et avec nous à distance, Mathilde Dupré, co-directrice de l'Institut Veblen, co-autrice avec Samuel Leray de cet ouvrage, Après le libre-échange, quel commerce international face au défi écologique, c'est paru aux éditions Les Petits Matins. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
Beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, comment se porte le commerce mondial, Sébastien Jean ? Il connaît depuis le début de l'année 2021 une forte reprise ?
Oui, cette crise est pleine de surprises. Mauvaise la plupart du temps, de temps en temps bonne quand même. Et donc elle est assez déroutante et c'est vrai aussi pour le commerce mondial. À la survenue de la crise, il s'était effondré avec une brutalité qu'on n'avait jamais vue. Ensuite, il a rebondi à la fin du printemps, au début de l'été, avec aussi une soudaineté que pas grand monde attendait. Et puis, on a vu la crise se transformer. Il y a eu cette vague de deuxième confinement dans beaucoup de pays. Et là, la nature, en termes économiques de la crise, a changé. C'est-à-dire qu'elle s'est mise vraiment à frapper essentiellement les services et avec une récupération assez bonne de l'activité dans le secteur industriel, manufacturier, enfin tout ce qui est production de biens, de marchandises, et récupération aussi des flux de commerce, avec beaucoup de surprises même sur leur nature, c'est-à-dire qu'on a vu par exemple une explosion de la demande de biens électroniques, informatiques, tout ça lié beaucoup à l'explosion du télétravail, à aussi des comportements, disons, de réaction à la crise un peu inattendue, à la transition très rapide de l'industrie automobile vers le développement des véhicules électriques. Donc, toutes ces surprises, en fait, pour une mécanique extrêmement huilée, dans laquelle il faut beaucoup de logistique, beaucoup d'anticipation, comme celle du commerce international, ça crée des goulets d'étranglement, des hoquets qui sont très difficiles à ajuster pour les gens qui le mettent en œuvre.
En effet, on a le sentiment aujourd'hui qu'il s'agit pour l'offre de répondre à cette demande qui augmente. Isabelle Méjean, avec la reprise économique, la planète est touchée par une pénurie de matériaux qui frappe tous les secteurs.
Tous les secteurs, oui, en tout cas de très nombreux secteurs, effectivement, font face à des pénuries sur soit des composants très spécifiques, soit plus généralement sur les matières. Hein, il y a une envolée très forte des prix des matières premières qui est liée à ce dont vient de parler Sébastien, c'est-à-dire une reprise très rapide de la demande et donc des ajustements de l'offre qui sont un peu compliqués dans une structure du commerce international qui est extrêmement complexe, avec une fragmentation très très forte des chaînes de valeur et donc beaucoup d'endroits où il peut y avoir des petites frictions et donc des retards.
Les chaînes, le fait que les chaînes logistiques soient aujourd'hui gravement perturbées, Sébastien Jean, c'est aussi lié à la violence de la vague épidémique en Inde. Ça a des conséquences sur le transport maritime mondial ?
Oui, c'est vrai, le transport maritime a été notamment touché. Alors l'Inde, c'est très sensible parce que l'Inde fournit une grande partie, une partie importante des personnels qui naviguent sur ces navires de transport de marchandises.
11% des marins d'origine indienne.
Voilà. Il y a eu aussi beaucoup d'éléments qui ont causé des problèmes. Par exemple, les mesures de quarantaine dans les ports. Quand on demande à un bateau d'attendre deux semaines, par exemple, avant de décharger pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contagion à ce moment-là, ben, ça paralyse le bateau. Quand les ports, souvent, ont eu des problèmes liés aussi à la pandémie, qui ont ralenti leur activité. Tout ça, ça a grippé cette mécanique. Pour ça, je parlais de mécanique très très bien huilé parce que vraiment, c'est quelque chose de, il y a une optimisation des processus qui est très poussée, mais qui, du coup, quand elle est altérée, disons, quand il y a des grains de sable dans ces rouages, ça pose pas mal de problèmes. C'est pour ça qu'on a été dans cette situation depuis le début de l'année où il y a une pénurie de conteneurs. Il y a autant de conteneurs, enfin, il y en a un petit peu moins, à vrai dire, pour des raisons un peu techniques de baisse de la production au tout début de 2020, mais il y a à peu près autant de conteneurs, il y en avait à peu près autant au début 2021 qu'au début 2020, et pourtant ça suffisait plus parce que il y avait justement cette mécanique bien, moins bien huilée. On n'arrivait pas à avoir la même vitesse de rotation des bateaux, des conteneurs, et en plus à aussi bien anticipé qu'on le faisait d'habitude, la nature de la demande. Et donc, ça a provoqué beaucoup de pénuries, une envolée spectaculaire des prix du fret maritime, hein, multiplié par 4, par 6 sur certaines routes, notamment de l'Asie vers l'Europe.
Alors, à l'heure où le commerce mondial connaît une reprise plus rapide que prévu, c'est ce que disait la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, à cette heure-là, est-ce que ce que l'on constate, c'est que le coronavirus, la pandémie, ont changé le visage de la mondialisation? Ce qui est sûr, c'est que les choses bougent sur le front de la fiscalité.
Je suis ravie d'annoncer aujourd'hui que les ministres des Finances du G7 sont parvenus, après des années de discussions, à un accord historique visant à réformer le système fiscal mondial pour qu'il soit adapté à l'ère numérique mondiale et surtout pour qu'il soit équitable, afin que les bonnes entreprises paient les bons impôts au bon endroit. Il s'agit d'un gain énorme pour les contribuables du monde entier. Les politiques fiscales sont très importantes pour soutenir la reprise. C'est pourquoi nous exhortons à un tournant idéologique en la matière, sans pour autant retirer trop tôt les politiques de soutien, qui sont ce que nous pouvons faire de mieux en ce moment. Ce n'est pas seulement pour en finir avec la pandémie qu'il faut utiliser les outils fiscaux, mais pour investir, pour s'attaquer aux problèmes des générations, comme le changement climatique et les inégalités.
Après 4 ans de combat, la France a eu gain de cause. Il y aura bien une taxation des gens du digital. Il y aura bien une taxation minimale à l'impôt sur les sociétés pour éviter l'évasion et l'optimisation fiscale qui révoltent à juste titre nos compatriotes.
Voilà, on vient d'entendre dans l'ordre le chancelier de l'échiquier britannique, Rishi Sunak, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et enfin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Mathilde Dupré, ce soutien affiché par le G7 la semaine dernière à un impôt minimum des sociétés, c'est un pas historique?
Alors, c'est une étape très importante puisque ça fait maintenant plus de 10 ans, hein, que sont ouvertes des discussions internationales sur la fiscalité et la révision des règles fiscales internationales, hein, depuis les suites déjà de la crise financière des années 2007-2008. Il faut quand même néanmoins voir que on est qu'au début d'un accord, puisqu'il faut maintenant que tout ceci repasse dans le giron de l'OCDE et évidemment du G20, puisque là pour l'instant on a un accord des pays du G7, ce qui sera loin d'être suffisant pour que tout le monde accepte ces nouvelles règles. Et puis après, on peut avoir peut-être un regret sur le chiffre qui a été annoncé, 15%, parce qu'il y a encore quelques semaines, les États-Unis étaient arrivés avec une proposition bien plus ambitieuse, 21%, et elle n'a pas pu aller jusqu'au bout sur la table des négociations, notamment parce que l'Union européenne n'a pas suffisamment soutenu cette proposition. Et la France non plus d'ailleurs.
Alors avant d'entrer dans le détail effectivement de ce taux d'imposition, l'économiste Joseph Stiglitz a jugé que cet accord du G7 est à la fiscalité ce que l'accord de Paris est pour le changement climatique. Ça devrait mettre un terme, si effectivement cet accord passe au niveau de l'OCDE, Sébastien Jean, au moins 10 ans fiscal qui a été entamé dans les années 80.
On peut l'espérer. C'est potentiellement un virage historique. Il faut bien voir qu'il y a un problème vraiment de coordination entre un très grand nombre de pays, donc c'est très complexe. Donc là, il y a une sorte de... c'est ce que Manker Olson a décrit comme les problèmes de coordination de l'action collective. Et au fond, on est dans une logique, pour moi, un peu de boule de neige qui fait sens. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un noyau de pays partageant un certain nombre d'intérêts ou une vision du problème, qui se mettent d'accord et puis qui, après, pèsent suffisamment pour essayer d'influencer un deuxième cercle, qui en l'occurrence serait le G20 à Venise au début juillet, pour espérer ensuite aller vers un accord au niveau de l'OCDE et des 139 pays qui sont membres de la négociation, qui sont partie prenante à la négociation. Bon, c'est quand même la position des États-Unis qui a fait basculer ce qui est le cœur, à mon avis, de la négociation quand même, c'est-à-dire cette notion de taux d'imposition minimum des multinationales au niveau mondial, mais appliqué pays par pays. Enfin, on reviendra peut-être sur les détails. J'ai l'impression que là, c'est une étape très importante. C'est vrai que c'est difficile pour... Ça met le doigt sur l'une des plaies les plus béantes de l'Union européenne, c'est-à-dire sa grande difficulté à avancer sur les questions fiscales, parce que c'est une matière dans laquelle les décisions doivent être prises à l'unanimité dans l'Union européenne. Et il y a des paradis fiscaux, en tout cas des pays qui jouent un jeu non coopératif au niveau fiscal au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et il faut espérer que ça soit une façon aussi de le dépasser, disons, en tout cas d'avancer sur ce domaine.
En effet, si ce taux mondial d'imposition serait finalement de 15% contre 21% comme l'avait proposé d'abord l'administration Biden, Mathilde Dupré, c'est pour que la réforme ait plus de chances de déboucher sur un consensus à l'heure où il y a des blocages dans des pays comme l'Irlande.
Alors, le but du jeu, c'est d'arrêter la dégringolade du taux nominal d'impôt sur les sociétés. Hein. Au cours des 30 dernières années, on est passé de 40% de taux nominal à 20% dans les pays les plus riches. Et avec le rôle joué par les paradis fiscaux, il y a une course vers le moins 10 ans qui s'était engagée et qui est une course mortifère hein, pour les finances publiques des États. Mais c'est vrai que l'Union européenne peinait à soutenir les propositions des États-Unis parce qu'il y a des pays dans l'Union européenne qui sont encore bien en deçà, et notamment l'Irlande à 12,5. Mais ceci dit, il faut voir que ce taux... d'impôt minimum effectif, il peut être appliqué de façon unilatérale et donc on devrait pouvoir quand même obliger les paradis fiscaux qui ne souhaitent pas jouer le jeu voir les profits qu'ils ont captés injustement des multinationales être taxés ailleurs dans les pays où sont les maisons mères de ces multinationales.
En tout cas, ce que l'on voit, c'est que si les choses se débloquent, alors que vous le disiez, l'OCDE planche depuis des années sur une telle réforme de la fiscalité, c'est grâce à l'impulsion donnée par Joe Biden, mais aussi grâce au contexte économique global, puisque les géants du numérique ont largement tiré profit de la pandémie, Sébastien Jean, et aussi les États ont énormément besoin d'argent à l'heure des plans de relance faramineux qui sont annoncés.
Oui, il y a une sorte d'alignement des étoiles. C'était pas possible sans un leadership, parce que cette réforme, comme le dit à juste titre Mathilde Dupré, elle peut être appliquée unilatéralement par les pays, mais un pays qui l'appelle et l'appliquerait tout seul, sans qu'il y ait une masse autour, risquerait de voir les multinationales se détourner de lui. Donc il y a une sorte un risque de délocalisation, si on veut, si on n'est pas à une masse critique donnée. Mais une fois qu'il y a une masse critique, là, pour le coup, on peut l'appliquer chacun séparément et on peut l'appliquer à plus que le taux minimal qui serait recommandé par un accord éventuel.
C'est d'ailleurs ce que prévoit de faire Joe Biden, puisqu'il veut faire passer le taux d'imposition des sociétés aux États-Unis de 21 à 28%.
Et là, dans la discussion, dans le communiqué du G7, on parle d'une réforme pour un taux minimal de au moins 15%. Donc, il faut espérer que ce taux soit plus élevé, parce que 15%, en fait, c'est quand même un taux assez réduit pour un taux d'impôt sur les sociétés. Hein. Historiquement, on a été au milieu du siècle plutôt dans les 50%. Ensuite, on a été beaucoup dans les 35% jusqu'à il y a 40 ans. Donc, on est très en dessous aujourd'hui, mais 15%, c'est quand même c'est pas un niveau très ambitieux.
Ce que l'on comprend, c'est que ce qui ne se fait pas au niveau européen, c'est-à-dire cette réforme de la fiscalité, pourrait se faire plus facilement au niveau international, Mathilde Dupré.
Effectivement, là, on voit que finalement la proposition et le dynamisme dans les négociations est plutôt venu des États-Unis. C'est intéressant. Après, reste un autre point très très sérieux à examiner. C'est celui de la juste répartition de cet effort de lutte contre l'évasion fiscale. Parce qu'aujourd'hui, ce serait surtout les pays hôtes des maisons mères qui bénéficieraient de la mesure telle qu'elle est dessinée. Le Tax Justice Network nous dit que les pays de G7 pourraient capter 60% des recettes supplémentaires qui seraient ainsi générées. Et Or, on sait que les pays les plus pauvres, les pays en développement, sont particulièrement frappés au regard de leur richesse nationale par les processus d'évasion fiscale des entreprises multinationales. Et donc, il faut vraiment trouver une solution qui soit juste aussi pour eux. Et ça, c'est peut-être pas encore tout à fait le cas. Et notamment aussi parce que, pour l'instant, dans les solutions dont on parle, ne couvriraient qu'une centaine des plus grosses entreprises multinationales. Donc, certes, les géants du numérique seraient dedans, mais il y a certainement encore des efforts à faire pour aller vraiment plus loin dans cette réforme et cette remise à plat des règles fiscales internationales.
C'est un premier pas, mais il devrait y avoir des points de blocage et cet accord pourrait être plus ambitieux. On peut le résumer comme ça, Sébastien Jean, pour finir autour de cette question de cette réforme fiscale mondiale.
Oui, mais je pense qu'il faut insister aujourd'hui quand même sur le caractère un peu historique et potentiellement structurant pour la suite de cet accord autour de, en particulier, du principe d'imposition minimale des profits des entreprises multinationales. Je crois que ça renverse potentiellement la logique et c'est effectivement, à mon avis, c'est une étape importante de réaction. Vous avez souligné aussi ces besoins fiscaux liés à la réponse à la crise. Puis vraiment cette urgence politique au fond de corriger certains abus et excès de la façon dont la mondialisation s'est organisée depuis un certain nombre d'années. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette évasion fiscale des multinationales, c'est un problème. Bon, c'est-à-dire les paradis fiscaux, c'est très vieux. Il y avait déjà, en gros, il y a un siècle. Mais le problème a véritablement changé d'échelle depuis 30 ans. Parce qu'il y a eu des évolutions technologiques, il y a eu une beaucoup plus grande mobilité des capitaux, parce qu'il y a eu aussi une négligence vraiment et souvent volontaire des pays occidentaux dans la façon d'appliquer leurs règles fiscales et dans l'exigence qu'ils ont mis derrière, les moyens qu'ils ont mis aussi. Donc ils l'ont toléré un peu d'une certaine façon et je crois que là on a un mouvement tellurique un peu qui se met en place qui se met en mouvement, disons.
On peut dire tout de même qu'on assiste au retour du multilatéralisme pour encadrer la mondialisation, Isabelle Méjean, avec cette avancée sur la réforme fiscale mondiale.
Je ne sais pas si c'est la meilleure preuve de multilatéralisme, hein, parce que là, on voit bien qu'il y a eu une impulsion très forte unilatérale, hein, des États-Unis. Et je pense que la question, une des questions qui va venir, hein, c'est un peu qu'est-ce qui se passe après, comment les pays réagissent, en particulier en Union européenne. Hein, je pense quand même que ça reste un problème très compliqué, puisque Sébastien l'a dit, hein, en Union européenne, il y a des contraintes supplémentaires sur la taxation sur les profits faits à l'intérieur de l'Union européenne. Donc là, je pense qu'il y a effectivement une opportunité. Encore une fois, il y a une impulsion qui est quand même avant tout unilatérale. Hein, donc je vois pas ça, c'est pas forcément le triomphe du multilatéralisme. Mais je pense qu'il y a vraiment une fenêtre de tir pour les grands pays européens à réagir et rebondir là-dessus en poussant les discussions sur ce qui va se passer à l'intérieur de l'Union européenne. Donc là, je pense que c'est vraiment très important de saisir l'opportunité et puis de rappeler que sur toutes ces questions de fiscalité internationale, c'est vraiment l'enfer est dans le détail. Donc il faut quand même faire très attention. On parle de seuil minimum. On sait qu'il faut faire un seuil minimum effectif. C'est très important. Les détails des mots sont très importants. Donc,
il va falloir suivre cela de très près. Et notamment au moment du sommet du G20 Finance des 9 et 10 juillet prochains à Venise. Alors, parmi les sujets sur la table, il y a celui de cette réforme de la fiscalité mondiale et puis il y a aussi la question de la levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'avenir du commerce mondial dépend en grande partie de la vaccination. Or, si elle est bien avancée aux États-Unis et en Europe, de nombreux pays, Sébastien Jean, souffrent aujourd'hui d'un accès très insuffisant au vaccin.
Oui, bien sûr, c'est un défi et c'est pas un défi commercial, c'est avant tout un défi, j'allais dire, moral, politique, social et économique. Et ce défi, c'est au fond l'impératif de lutter le mieux possible et le plus vite possible contre cette pandémie au niveau mondial. Et pour l'instant, on voit bien la progression des vaccins très rapide dans les pays qui peuvent se le permettre, essentiellement aujourd'hui finalement les pays occidentaux et la Chine, et puis une évolution très lente dans les pays du Sud. Alors ça pose la question effectivement de savoir comment on fait pour ça. Le sujet de la protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre et de la levée de ces protections pendant la durée de la pandémie et en discussion à l'OMC. C'est un élément, je crois que, en tout cas pour moi, ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble et l'impératif moral de effectivement arriver à le plus rapidement possible œuvrer pour mettre en œuvre tout ça, parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique, et on sait que là, c'est très compliqué. C'est des médicaments qui sont aussi, des vaccins qui sont très compliqués à produire. Donc c'est un dossier complexe dans sa mise en œuvre.
C'est effectivement la question de l'efficacité qui se pose aujourd'hui pour les États qui se montrent le plus réservés à l'idée de lever temporairement les brevets sur les vaccins anti-Covid, et aussi pour les laboratoires. Lever les brevets ne conduirait pas à une augmentation de la production. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathilde Dupré?
Mais ça, c'est un argumentaire qu'on a déjà entendu dans le passé pour d'autres maladies, hein, et notamment pour les antirétroviraux et pour les traitements du SIDA. Aujourd'hui, on voit quand même que on a sur la pandémie de la Covid des vaccins qui ont été développé très rapidement avec un concours de l'argent public qui a été important à la fois à travers la recherche publique, mais aussi les précommandes de nombre très élevé de doses. On a déjà des records qui sont annoncés en matière de bénéfices et de distribution de dividendes par les entreprises qui sont concernées par la production et la distribution de ces vaccins. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est possible de demander de lever au moins temporairement les droits de propriété pour libérer les vaccins. Je pense que les pays riches, il y a trois leviers par lesquels ils peuvent agir. Aujourd'hui, ils ont précommandé la majorité des doses, et donc il y a des pays comme le Canada qui ont acheté 10 doses par habitant. Dans l'UE, on est à 4,7. Donc c'est certainement nécessaire d'avoir un certain nombre de doses, parce qu'on voit qu'il sera peut-être nécessaire de se revacciner régulièrement. Néanmoins, là il y a certainement des inégalités qui sont à corriger.
Mais justement, est-ce qu'il vaut mieux redistribuer des vaccins qui seraient précommandés, ou au contraire encourager, Isabelle Méjean, la production des vaccins sur le sol des pays émergents et en développement?
Je pense qu'en général, il y a un vrai enjeu, c'est celui de la production beaucoup plus rapide. On voit bien que les questions de propriété intellectuelle sont pas les seuls problèmes. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de soucis à l'intérieur du groupe des pays riches, hein, à s'approvisionner et à obtenir les doses précommandées, etc. Parce qu'il y a un enjeu de production qui est très important. C'est encore une fois des chaînes de valeur qui sont compliquées. C'est très entremêlé, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin d'un effort collectif pour organiser à plus grande échelle la production et approvisionner, évidemment, pas uniquement les pays riches, mais aussi les pays en développement.
L'un des enjeux, c'est la production, effectivement, et cette technologie de l'ARN messager qui n'est pas forcément maîtrisée par tous les laboratoires, Mathilde Dupré.
Effectivement, il faut des moyens spécifiques pour produire ces vaccins, mais on l'a vu déjà dans les vaccins qui sont produits aujourd'hui, il y a certaines étapes de la production qui peuvent être confiées à des sous-traitants, et déjà les vaccins qui sont produits aujourd'hui reposent sur des chaînes de valeur assez complexes, et on nous dit qu'il y a des unités de production qui ont pour l'instant proposé leurs services et qui n'ont pas été retenus, et certainement des capacités qui pourraient être avec des transferts de technologie et de l'argent développés en plusieurs mois. Donc je pense qu'il faut vraiment agir sur tous les leviers possibles en même temps, à la fois corriger un peu sur les précommandes, à la fois redistribuer des doses comme ça a été il y a des annonces qui ont été faites mais c'est encore très faible, notamment via le dispositif COVAX par exemple, et puis essayer de libérer les droits de propriété pour accélérer la production, parce que encore une fois c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde, puisque si on veut venir à bout de cette pandémie, on a vraiment intérêt à ce que un maximum de gens soient vaccinés dans tous les continents.
Et à l'heure actuelle, seulement 0,3% du total des doses a été administré dans les 29 pays les plus pauvres du monde, alors que c'est 9% de la population mondiale. Cette campagne pour la levée des vaccins est menée par l'Afrique du Sud et l'Inde notamment. Les pays émergents, Sébastien Jean, sont en ordre de bataille et ils ont trouvé un allié de poids en les États-Unis.
Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, en l'occurrence, par exemple, le soutien, les Américains soutiennent cette initiative sur le principe, mais en fait, là encore, le principe, ça ne veut pas dire grand-chose sur la réalité de la politique qu'on mène ensuite, parce qu'il y a beaucoup de façons. Ce qu'on a discuté là, au fond, c'est toute la complexité de ce dossier, dans la mesure où il y a une sorte d'obligation de résultat pour être à la hauteur de l'enjeu. Mais ça veut dire vraiment produire et distribuer. Et on voit que c'est extrêmement complexe. Si bien que il y a actuellement les États-Unis, par exemple, donc donnent leur soutien de principe sur cette exemption, bon, ce qui me semble une bonne chose. Mais dans le même temps, eux, pour l'instant, n'ont exporté quasiment aucun vaccin. Donc ils ont eu la politique la plus protectionniste, enfin la plus nationaliste, disons, et la plus égoïste au niveau de leur pays. Jusqu'à présent. Donc, bon, il ne faut pas croire non plus que les États-Unis, jusqu'à présent, ont beaucoup aidé pour solutionner ce problème. Les pays émergents, entre eux, partagent pas les mêmes intérêts non plus. D'ailleurs, l'Inde elle-même a mis des interdictions d'exportation sur les vaccins quand la situation était critique. Je comprends naturellement le côté dramatique, tragique de la situation en Inde, hein, donc c'est pas un jugement que je porte là, mais c'est juste un constat. Et le fait que pour beaucoup de pays émergents, c'était un énorme problème en face parce que eux-mêmes étaient aussi dans une situation dramatique. Voilà, donc on a cette situation très difficile. Qu'est-ce qu'il en est exactement de la meilleure façon d'accélérer cette production des vaccins? C'est très difficile à dire. Moi, honnêtement, je prétends pas avoir une vision suffisamment claire des aspects techniques de tout ça pour dire ce qu'il en est. Je pense que personne ne doit se mettre en travers de ces initiatives, qu'il faut être très ambitieux et avoir une vue large de ces problèmes et mettre les moyens. Et c'est vrai que c'est ce qu'ont fait les États-Unis chez eux, et ils l'ont fait en mettant beaucoup en étant très pragmatique au fond. Et donc on parle pas seulement de brevets, il faut pas que les brevets se mettent en travers, effectivement, donc il faut les lever si c'est un problème, mais il faut aussi beaucoup d'assistance technique dans la production, dans la distribution aussi, hein, donc beaucoup de coopération internationale active et efficace.
Et qu'est-ce que vous répondez, vous répondriez, Mathilde Dupré, à ceux qui estiment qu'une telle mesure, cette levée temporaire des vaccins, risquerait de décourager l'innovation?
Bah, encore une fois, je pense que l'exemple là, il est plus complexe parce que les vaccins qui ont été développés contre la Covid ont beaucoup bénéficié de la recherche publique. Il y a des études maintenant qui permettent de montrer que voilà, l'ARN messager, etc., c'est des choses qui sont issues de la recherche publique. Donc c'est pas uniquement du fait des entreprises qui ont développé ces vaccins. Et puis par ailleurs. Les doses sont achetées par des gouvernements, donc dépendent de très fortement de la demande publique. Donc je pense que aujourd'hui l'incitation à produire des vaccins pour répondre à cette épidémie, elle existe, elle est très forte, et il y a déjà eu 26 milliards de dollars distribués aux actionnaires des principaux producteurs des vaccins depuis un an, et ça devrait continuer. C'est l'ONG Oxfam qui montrait qu'il y avait des dirigeants des deux entreprises qui sont sur ce marché-là, qui ont fait leur entrée dans le cercle des plus riches à l'échelle planétaire. Donc je pense que l'incitation économique, elle existe, et elle ne doit pas
être un frein à cette question de la levée temporaire des brevets.
Et il y a encore beaucoup de marge aujourd'hui pour à la fois protéger la propriété intellectuelle, mais lutter efficacement contre la pandémie.
Alors, il y a cette question des doses de vaccins et de leur possible redistribution. Et puis, il y a la question aussi du soutien aux pays qui ont largement souffert de la pandémie. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que notamment les pays africains, Sébastien Jean, ont été relativement épargnés par la pandémie sur le plan sanitaire. Mais ils payent un lourd tribut sur le plan économique, d'où cette volonté peut-être de tenter une manière de venir au secours de ces économies africaines. C'était l'objet du sommet de Paris qui a eu lieu mi-mai, Sébastien Jean.
Oui, évidemment, ils ont été relativement épargnés sanitairement, mais ils ont quand même subi très fortement ce choc, avec beaucoup moins de possibilités que les pays occidentaux de réagir. Si ma mémoire est bonne, entre mars 2020 et je crois novembre ou décembre, aucun pays africain n'a eu accès au financement sur les marchés. pour sa dette. Donc, il y avait une telle inquiétude au sujet de la stabilité de leurs finances qu'il n'y avait plus aucun prêteur privé pour leur faire confiance, pour leur prêter de l'argent. Donc, à la fois, ils étaient face à un choc très brutal qui appelait une réaction de l'État et, dans le même temps, ils étaient incapables de le financer. Donc, il y a eu des appels d'urgence très nombreux lancés auprès de la Banque mondiale et du FMI. Le FMI a prêté en urgence à environ 80 pays, si je me rappelle bien. Tout ça étant souvent, la plupart du temps, en fait, limité par rapport aux véritables besoins pour assister les populations dans ces conditions où, certes, c'était pas un confinement comparable à ce qu'on connaissait nous, mais c'était quand même, il y avait quand même une paralysie partielle de l'activité économique qui était très forte. Donc, dans des contextes sanitaires, mais aussi économiques et sociaux qui sont compliqués, qui sont très fragiles, vulnérables dans beaucoup de cas. Alors, la réponse à laquelle vous faites allusion des pays développés, ça a été de dire on va faire un geste sur la dette publique, et donc ce qui a été décidé, ça a été un moratoire, c'est donc une suspension en fait pour temporaire du paiement des intérêts de la dette. C'est pas un engagement très important à l'échelle de la période qu'on traverse, et ce qu'il faut souligner d'emblée, c'est que on a une situation aujourd'hui qui est beaucoup plus compliquée que précédemment, en particulier à cause du nouveau rôle de la Chine, c'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui le premier créditeur à beaucoup de ces pays en développement. Les pays là concernés par cette initiative, un quart de la dette internationale, de leur dette internationale est due à la Chine, et donc ça complique beaucoup les choses parce que les Chinois ne sont pas dans ces processus de discussion autour des dettes, parce que souvent ils ont des façons, des canaux pour prêter qui sont assez variés, opaques, et parce que politiquement, pour l'instant, pour la Chine, c'est une sorte de tabou d'accepter une restructuration de la dette et en fait une baisse sur le montant qui va leur être remboursé in fine.
Alors justement, on va en venir à la Chine, puisqu'elle semble avoir pris une longueur d'avance dans cette course à la reprise économique, et on se demandera aussi si le libre-échange de demain se fera sous le signe de l'affrontement ou de la coopération, on en parle dans un instant. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? They're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. Asia's crowded, Europe's too old. Africa's far too hot and Canada's too cold. And South America stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We'll save Australia, don't wanna hurt no kangaroo. We'll build an all-American amusement park there. They got surfing too. Boom goes London, boom Paris. More room for you and more room for me. In every city, the whole world round, we'll just be another American town. Oh, how peaceful it will be. We'll set everybody free. You wear a Japanese kimono, baby, be Italian shoes to me. They all hate us anyhow, so let's drop the big one now. Let's drop the big one now.
C'était Political Science de Randy Newman sur France Culture, libre-échange, un vieux rêve qui bouge. C'est notre sujet aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie du directeur du CEPI, Sébastien Jean, de la co-directrice de l'Institut Veblen, Mathilde Dupré, et de la professeure à l'école polytechnique, Isabelle Méjean. Alors dans cette course à la reprise mondiale, on a le sentiment, Sébastien Jean, que la croissance chinoise est repartie la première, plus vite et plus fort qu'ailleurs. Est-ce que vous diriez que la pandémie a fait prendre à la Chine une longueur d'avance?
C'est ce qu'on a cru clairement dans un premier temps, c'est-à-dire que la vigueur du rebond chinois, je devrais dire pour commencer, la qualité de la réponse qu'ils ont de politique publique qu'ils ont réussi à avoir face à l'épidémie pour la contenir a été remarquable, si bien que il y a eu après la chute de l'activité très forte, un rebond très fort. Ils sont les premiers à dépasser leur niveau d'activité, enfin en tout cas parmi les grands pays, leur niveau d'activité d'avant crise. Maintenant, aujourd'hui, la réponse de politique économique américaine est tellement forte, tellement volontariste, que si on regarde ce qui se passe à l'horizon de 1 ou 2 ans, qu'on compare la situation qui est prévue aujourd'hui par rapport à celle qu'on prévoyait pour le même horizon avant la crise, ben on s'aperçoit que ce sont les États-Unis qui en fait ont été le plus favorablement, si j'ose dire, en tout cas le moins défavorablement impacté par cette crise, et parce que finalement elle a donner lieu à une réponse de politique publique extrêmement vigoureuse et qui même va les faire revenir au-dessus de la trajectoire qu'on prévoyait avant crise. Voilà.
Donc la Chine n'a pas pris nécessairement la longueur d'avance qu'on pourrait imaginer, Isabelle Méjean.
Je pense que la Chine, effectivement, a eu un traitement de la crise sanitaire qui est remarquable. Et puis après, le rebond du commerce chinois a en partie bénéficié de la nature de la crise, hein, puisqu'il y a eu une grosse partie du traitement de la crise sanitaire qui s'est fait avec des produits manufacturés qui sont une très forte spécialité chinoise. Donc si vous regardez les chiffres du commerce chinois, vous avez quand même une dynamique qui est très différente si vous enlevez, disons, les produits Covid et que vous gardez le reste, où le rebond de mars, avril, mai a été très fortement tiré par des exportations de masques globalement. Donc voilà, il y a deux éléments. Il y a vraiment, je pense, un élément de spécialisation. Et donc, quand on est très bien spécialisé sur une demande qui est très forte à l'échelle mondiale, on bénéficie. Et puis, il y a aussi effectivement le fait que il y a eu... pas tellement de deuxième, troisième vague comme on a pu avoir en Europe et aux États-Unis.
Mais ce qui pourrait freiner peut-être la croissance chinoise dans les prochaines années, Sébastien Jean, c'est le vieillissement de sa population et le recul de la natalité. Ça apparaît comme une question de plus en plus importante en Chine.
Oui, une inquiétude. Donc, il y a eu ce référendum récent qui a été ce recensement récent qui a été réalisé en Chine. C'était le premier depuis plusieurs années et qui a un peu éclairé, hein, en termes relatifs en tout cas, la nature des tendances démographiques en Chine et qui confirme ce qu'on savait, c'est-à-dire un ralentissement démographique très fort qui est considéré comme inquiétant par le pouvoir chinois parce que porteur d'un moindre dynamisme et potentiellement d'un affaiblissement géopolitique. Donc ils ont répondu notamment en autorisant un troisième enfant. Bon, ça n'a pas fait tellement de différence quand ils ont autorisé le deuxième. Donc honnêtement, je ne pense pas que la question aujourd'hui soit tellement l'autorisation, mais plutôt les souhaits de natalité des Chinois, enfin, et les conditions dans lesquelles ils vivent en termes de garde d'enfants.
C'est ça, il y a mis en place de structures qui apparaissent comme assez nécessaires.
Voilà, qui font tout ça aujourd'hui que la natalité en Chine est très très faible et donc elle a la perspective de le rester. Et dans les perspectives, dans les projections qui ont été faites, même sur au niveau, alors c'est évidemment très hypothétique, mais jusqu'en 2100, par les organisations internationales, on voit même que la population de la Chine serait potentiellement divisée par deux, quasiment. Et la Chine, d'ailleurs, pour l'anecdote, serait dépassée par le Nigeria en termes de population à cet horizon.
Et donc, il y a un enjeu pour la Chine aujourd'hui, Mathilde Dupré, vis-à-vis de l'Inde notamment, puisque la Chine craint d'être dépassée par l'Inde sur le plan démographique. Ça ne saurait tarder.
C'est effectivement, ça fait partie des projections démographiques. Ce qui est en train de se passer, la situation sanitaire catastrophique en Inde, il pourrait y avoir quelques déviations par rapport au grand scénario, mais
et quel problème ça pose sur le plan économique pour la Chine, ce vieillissement de la population et ce recul de la natalité? La crainte, c'est notamment la raréfaction de la main d'œuvre qui nuirait au dynamisme chinois, Mathilde Dupré.
Il y a les ressources en main d'œuvre qui pourraient effectivement venir à être modifiées, et puis après il y a les grandes mutations qu'était en train de vivre la Chine, qui dépend peut-être avec le temps un peu moins du commerce international et plus du commerce régional, et de plus en plus de sa demande intérieure, donc à voir comment la transition démographique joue dans ce tableau. Oui.
Est-ce que l'immigration pourrait être une solution face à ce vieillissement de la population, Sébastien Jean?
En Chine, je ne crois pas. L'immigration est très très faible en proportion de la population chinoise, et le pays est quand même relativement fermé en termes de mouvement migratoire, et vu sa taille, vraiment, je ne crois pas que ce sera un élément important. Maintenant, ça pose le défi aussi de la transformation sociale de l'économie chinoise, parce qu'il y a des retraites qui sont très limitées aujourd'hui, enfin, qui sont limitées dans leur montant, et puis la logique de l'évolution de l'économie chinoise, c'est de développer sa protection sociale, et notamment les systèmes de retraite. Donc, sur la table des débats, en tout cas, des questionnements de politique économique aujourd'hui, il y a le recul de l'âge de la retraite, qui est très tôt en Chine, hein. C'est 55 ans pour les femmes, 60 ans pour les hommes la plupart du temps.
Mais dans les faits, en réalité, les Chinois travaillent quasiment jusqu'à leur mort.
Non, dans les usines par exemple, ils reviennent à la campagne, ils peuvent travailler à la campagne après, mais beaucoup d'entre eux arrêtent de travailler quand même, arrêtent de travailler au moins dans leur emploi urbain, disons. Et donc c'est un élément quand même important du pacte social. Donc politiquement, c'est une question très sensible. Il est déjà clair pour eux qu'ils vont être obligés de reculer l'âge de la retraite, parce que c'est un vieillissement et donc un changement dans la proportion, dans la répartition de la population. Il va y avoir proportionnellement beaucoup plus de personnes âgées en proportion notamment de la population en âge de travailler en Chine pour les décennies qui viennent. C'est structurel et ils sont obligés de s'y adapter.
Voilà, une faiblesse structurelle qui intervient dans la compétition que se livrent Pékin et Washington, une compétition qui ne semble pas s'adoucir depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Écoutez la passe d'armes entre Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et Jake Sullivan, conseiller de Joe Biden chargé de la sécurité d'un côté, et Yang Jiechi, ministre chinois des Affaires étrangères de l'autre. C'était le 18 mars dernier en Alaska, lors du premier sommet entre la Chine et les États-Unis depuis l'élection américaine.
Nous allons discuter de nos profondes inquiétudes au sujet des actes de la Chine à propos du Xinjiang, de Hong Kong, de Taïwan, des cyberattaques contre les États-Unis et de la coercition économique contre nos alliés. Chacun de ces actes menace l'ordre fondé sur des règles qui garantissent la stabilité mondiale. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de questions intérieures et nous ressentons l'obligation d'en parler ici aujourd'hui.
Le Xinjiang, le Tibet et Taïwan sont tous des morceaux inséparables du territoire chinois. Nous exprimons une ferme opposition aux actions américaines d'ingérence dans les affaires intérieures et nous prendrons des mesures fermes en réponse.
Nous ne cherchons pas le conflit, mais nous sommes ouverts à une compétition rude. Nous nous battrons toujours pour nos principes, pour notre peuple et pour nos amis.
Les problèmes liés aux droits de l'homme aux États-Unis sont profondément enracinés. Ils n'ont pas existé seulement au cours des 10 dernières années. Le massacre des Afro-Américains a toujours été un problème.
Sébastien Jean, qu'est-ce que cet échange traduit selon vous de l'état des relations sino-américaines sur le plan diplomatique et économique, deux plans qui apparaissent difficilement dissociables?
Oui, pour moi, ça illustre très bien une situation, au fond, j'ai l'impression, assez unique dans l'histoire, où on a un très fort degré d'interdépendance économique entre des pays qui sont des rivaux systémiques, des rivaux politiques. Après la guerre, par exemple, on a eu une mondialisation qui progressivement s'est mise en place. Elle était essentiellement une forte croissance du commerce et puis des interactions financières aussi, essentiellement entre les États-Unis et leurs alliés. On savait politiquement comment c'était structuré, tout était bien déterminé. Après, ça s'est étendu à un certain nombre d'autres pays, mais alors là, il y avait une hiérarchie économique finalement assez claire, hein. Les États-Unis et leurs alliés étaient surpuissants par rapport au reste. Aujourd'hui, politiquement, je veux dire, la Chine est un rival des États-Unis, hein, donc est un système intrinsèquement différent, y compris d'ailleurs dans sa dimension économique. Et puis économiquement, certes, les États-Unis restent dominants, notamment d'ailleurs sur la finance ou même sur les capacités militaires, mais c'est plus aussi clair qu'avant. Et y compris sur les technologies les plus avancées, les Chinois finalement sont en position de contester ça. Donc cette rivalité systémique entre les États-Unis et la Chine, elle est très forte. Elle est évidemment structurante pour les années qui viennent, mais elle intervient dans un contexte dans lequel ils sont très dépendants l'un de l'autre économiquement. Et ça, je pense que c'est assez unique. Et l'Europe se retrouve comme le troisième sommet du triangle à essayer de gérer cette situation, d'exister par elle-même, de ne pas être trop inféodée ou dépendante des États-Unis notamment, et en même temps de gérer cette situation difficile.
Alors on va parler de la place de l'Europe, mais d'abord, Joe Biden vient d'allonger la liste des entités chinoises dans lesquelles il est interdit aux Américains d'investir. L'objectif, c'est d'empêcher les investissements américains dans le complexe militaro-industriel de la République populaire de Chine. Mathilde Dupré, voilà qui relance les hostilités un an et demi après l'accord commercial signé en janvier 2020, lorsque Donald Trump était encore en pouvoir et qui était censé mettre un terme à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
Bah, ça fait un moment maintenant que effectivement les États-Unis hésitent un peu sur l'attitude à adopter, parce que déjà l'administration précédente sous Obama, les États-Unis essayaient de construire des alliances commerciales à la fois avec un accord transpacifique et un accord transatlantique pour prendre en tenaille, si je puis dire, la Chine avec des relations privilégiées avec une grande partie du reste du monde et de ses voisins. Ensuite, il y a eu effectivement les différentes annonces de Trump et puis la volonté de calmer le jeu. En réalité, ça montre qu'on a aujourd'hui des institutions internationales et multilatérales en matière de commerce qui ne fonctionnent pas et dans lesquelles on ne sait pas encore aujourd'hui organiser un dialogue et la mise en place de règles du jeu satisfaisantes pour des blocs aussi différents et aussi opposés qui pourraient respecter le modèle, enfin chacun des deux modèles et tout de même organiser des relations qui serait vivable pour les deux.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Joe Biden s'offre une palette d'outils plus vaste que son prédécesseur, puisqu'il allie à la fois la question de la hausse des droits de douane et les questions diplomatiques, où il essaye de mettre finalement les alliés des États-Unis traditionnels, les autres pays, dans son camp. Il utilise aussi la voie diplomatique, Sébastien Jean.
Oui, je pense qu'au fond, ils partagent l'objectif de confrontation avec la Chine, ou cette vision en tout cas de relation avec la Chine située dans ce qu'ils appelaient une rivalité systémique, une concurrence stratégique, pardon, dans le cas américain. Donc, ils partagent l'objectif de fond, mais ils diffèrent dans les moyens. Et en particulier, je pense que le plus important en termes de différence, c'est que pour Donald Trump, il n'y a pas d'alliés. Ça n'existe pas, en fait. Il y a une confrontation pure. C'est un bras de fer, finalement. C'est une succession de bras de fer, les relations internationales. Donc pour lui, le multilatéralisme, ça n'avait pas de sens. Les alliés non plus. Biden, lui, je pense, part du principe que une des forces de l'Amérique, c'est son réseau d'alliances, politiquement et économiquement. Et donc veut essayer de s'appuyer sur ses alliés, et notamment sur les Européens, au premier chef, pour répondre à la Chine. Voilà. Mmh. Alors, de quelle façon est-ce qu'on va arriver? C'est un défi.
Comment l'Europe peut-elle effectivement trouver sa place entre les États-Unis et la Chine? Aujourd'hui, Mathilde Dupré, elle multiplie les accords de libre-échange, tout en essayant de préserver ses objectifs environnementaux. On a l'impression d'assister à un exercice d'équilibriste assez compliqué. On le voit notamment dans les blocages qui entourent la ratification du traité de libre-échange avec le Mercosur.
Oui, bien sûr. Alors, juste sur la Chine, l'Europe a notamment négocié un accord de protection des investissements qu'elle a annoncé juste avant le changement d'administration aux États-Unis, qui a d'ailleurs provoqué un peu de surprise de la part des États-Unis qui espéraient, je pense, qu'il y ait des discussions avant la clôture de ces négociations-là. Mais pour le reste, effectivement, l'Union européenne ne change pas son agenda, hein, malgré des déclarations et là la publication d'une nouvelle stratégie sur la politique commerciale. Finalement, elle continue à tracer son sillon et on le voit avec des objectifs qui sont censés être complémentaires entre la croissance et l'accroissement des échanges et la protection de l'environnement, mais qui sont très difficiles à concilier dans les faits, puisque l'accord UE-Mercosur, ça a encore été dit récemment par les experts mandatés par le gouvernement français, pourrait accélérer la déforestation dans l'Amazonie entre 5 et 25 % par an pendant 6 ans pour les premières années de mise en œuvre, ce qui du coup ne paraît impossible pour tous les décideurs politiques qui sont résolument engagés dans la lutte contre le changement climatique et qui promet des négociations et des discussions très, très fortes à l'intérieur de l'Union européenne, puisqu'il y a des pays qui ont déjà dit que ce ne serait pas possible de le ratifier en l'état.
Alors, est-ce qu'il faut multiplier les accords de libre-échange en essayant d'imposer des impératifs écologiques, Isabelle Méjean, ou davantage aller dans le sens d'une régionalisation du commerce mondial? Et ça, cela passe par la question de la relocalisation que vous connaissez bien.
Je pense quand même que l'Union européenne va quand même largement avoir besoin du multilatéralisme, puisque dans le cadre du Green Deal, hein, il y a quand même une avancée vers une taxation carbone aux frontières de l'Union européenne, et ça passera pas sans une négociation aboutie au sein de l'OMC, hein. Donc je pense que l'Union européenne a quand même tout intérêt aujourd'hui à préserver la structure multilatérale à minima si elle veut faire avancer les choses sur ces questions-là. Après, effectivement, il y a cette grande question des relocalisations, mais bon, encore une fois, c'est une grande question qui n'a pas tellement de matérialité statistique. Hein. Je pense
on n'observe pas pour le moment de relocalisation de la production manufacturière au niveau mondial.
Je pense
mondial.
Que s'il devait y avoir quelque chose, on n'a pas du tout le recul statistique qui permettrait de voir quoi que ce soit, hein, puisque ces relocalisations, il faut quand même rappeler que c'est des investissements faramineux, donc ils se font sur beaucoup d'années. Hein, donc on n'a pas un an de recul statistique, va pas permettre d'observer quoi que ce soit. Et puis il faut rappeler aussi que l'Europe est déjà très régionale. C'est une organisation économique qui repose énormément sur la structure régionale parce qu'on a cette diversité à l'intérieur de l'Union européenne qui a permis de beaucoup régionaliser nos chaînes de valeur. Donc voilà, à très long terme, peut-être un peu plus que ça ne l'est déjà aujourd'hui, mais on a une organisation qui est déjà largement basée sur la régionalisation depuis 60 ans, 70 ans de construction européenne. Et donc, cette tendance-là ne va pas s'arrêter
pas s'arrêter tout de suite. Alors, si on assiste aujourd'hui au détournement de certains échanges commerciaux, Isabelle Méjean, c'est davantage lié aux conflits commerciaux, justement, qui sont en cours qu'à la crise du Covid ou à la volonté de rapatrier de la production pour des raisons, justement, écologiques?
Oui, je pense que sur les questions, en tout cas, de commerce international, la grosse incertitude, elle porte plutôt sur les questions de guerre commerciale, de protectionnisme, aussi parce qu'on y a été confronté très récemment avec le Brexit. Hein. Donc là, il y a un climat d'incertitude sur l'état du libre-échange et des tensions protectionnistes à l'échelle internationale qui sans doute va avoir des conséquences, hein, et a des conséquences sur les choix d'investissement, plus que sans doute la crise sanitaire qui finalement, comme c'est une crise mondiale, c'est pas du tout évident que ça modifie les choix d'investissement de manière très durable.
Pour vous, on pose la question de la relocalisation de la mauvaise façon. Il faudrait d'abord davantage se poser la question de la compétitivité, notamment en France.
Je pense qu'il y a une question de compétitivité en France dans l'Union européenne, mais c'est pas du tout la question qu'on pose en termes de relocalisation. Hein. Le déficit de la balance commerciale sur les biens en France, il est d'abord vis-à-vis de l'Allemagne et ensuite vis-à-vis de la Chine et d'autres pays émergents. Donc il y a un problème de compétitivité et d'équilibre macroéconomique à l'intérieur de la zone euro qui a été diagnostiqué, hein, il y a déjà un moment et sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'avancées qui sont faites. Hein. le plan de relance européen ne traite pas du tout des questions de déséquilibre macroéconomique à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc finalement, voilà, cette question de la relocalisation, c'est pas tellement, je sais pas si elle est mal posée, mais en tout cas, elle est posée en lien avec de nombreux enjeux qui sont très différents et qui appellent pas du tout à la même relocalisation. Donc du coup, ça semble être un outil unique qui en fait n'existe pas, puisqu'il y a plein de motifs de relocalisation et on ne va pas du tout cibler les mêmes instruments politiques selon le type de difficulté qu'on va essayer de toucher.
Ce que l'on voit, c'est que cette pandémie a tout de même transformé la mondialisation. Elle a au moins soulevé un certain nombre de questions. Pour conclure, Sébastien Jean, à quoi ressemblera selon vous le libre-échange qui est en train d'advenir, un nouveau libre-échange? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un nouveau libre-échange est en train d'émerger alors que le monde commence, semble-t-il, à sortir de la pandémie?
Je pense que ce sera probablement la période actuelle un tournant dans la façon dont la mondialisation est organisée. Et on l'a dit de différentes façons, hein. Certaines des évolutions qu'on a mentionnées sur la fiscalité, sur les questions qui se posent par rapport au climat sont vraiment très profondes. Dans un contexte où on doit gérer des dimensions différentes de l'interaction. Et je pense que ce que dit la façon dont les Européens abordent maintenant leur relation avec la Chine est assez symptomatique en disant c'est à la fois un partenaire, un concurrent et un rival systémique. Un partenaire parce que quand on parle du climat, on a un seul climat. On n'y arrivera à lutter contre le changement climatique que si on arrive à se mettre d'accord sur les façons de le faire ensemble. Un concurrent parce que naturellement dans les échanges, il y a une concurrence économique et ça restera comme ça. Et puis un rival parce que politiquement, il y a les différences dont on vient de parler. Donc il faut arriver à gérer une mondialisation un peu complexe où la dimension politique et géopolitique prend une place qu'elle n'avait pas précédemment, où l'urgence climatique devient aussi un peu dominante et doit aussi être au centre des choix qui sont faits. Et c'est un des grands défis aujourd'hui. On parle de Green New Deal au niveau européen, mais quel est le versant international en termes de commerce international, notamment de politique commerciale, ce Green New Deal? Je crois vraiment que ça reste à déterminer pour que ce soit vraiment un instrument au service de la politique qui a été affichée. Donc, au fond, c'est une nouvelle étape qui fait se poser la question: comment est-ce qu'on redonne plus de sens politique à ces interactions économiques internationales? C'est ça qu'on a devant nous, je crois.
Mathilde Dupré, un dernier mot rapidement sur cette mondialisation de demain. Sera-t-elle plus écologique, plus solidaire?
Il y a un nouveau concept qui a émergé, qui est celui d'une seule santé, qui montre que la santé des écosystèmes, des humains et de la faune sont liées. C'est aujourd'hui un concept assez peu opérationnel, mais ça montre certainement que, je pense, au sortir de cette pandémie, on a vu que les États doivent pouvoir intervenir massivement pour pouvoir gérer ce type d'urgence, mais comme ils vont devoir intervenir massivement pour pouvoir conduire la transformation économique dont on a besoin pour répondre aux défis du climat, de la biodiversité, et il faudra certainement revoir les règles du jeu, y compris les règles commerciales, pour donner aux États les marges de manœuvre pour conduire ces transformations.
Un grand merci à tous les trois, Sébastien merci. Jean, Isabelle Méjean et Mathilde Dupré, de nous avoir accompagnés merci. Tout au long de cette émission. J'ai sous les yeux, Sébastien Jean, la bande dessinée que vous avez, dont vous êtes le co-auteur. Je rappelle son titre, La folle histoire de la mondialisation, publié aux éditions Les Arènes. Et puis, je citerai aussi votre ouvrage, Mathilde Dupré, écrit avec Samuel Leray, Après le libre-échange, quel commerce international face aux défis écologique. C'est paru aux éditions Les Petits Matins. City leaves you love long and C'est la fin d'Entendez-vous l'écho, une émission préparée comme chaque jour par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Margot Boult, à la réalisation Anne Depelchin, à la technique aujourd'hui Élise Leu. Demain, face aux limites du modèle productiviste, que peut permettre l'économie circulaire? Nous poserons la question aux économistes Fabienne Collard et Christian Arnsperger. D'ici là, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
France Culture. L'esprit d'ouverture.